Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne, en compagnie de Pascal Blasi pour un livre par semaine. Donc Pascal qui va nous parler aujourd'hui des grandes affaires criminelles d'Auvergne, elle va nous parler de l'horrible crime de Varennes. Pascal, bonjour, bienvenue.
Bonjour, alors cet horrible crime de Varennes est une des histoires du livre « Les grandes affaires criminelles d'Auvergne » de Jean-Michel Cosson et Jean-Philippe Savignon aux éditions de Boré. Donc allons-y, je vous emmène à la rencontre de Plantade, ce père infanticide. Le 20 février 1869, comparaissait devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme un vieillard de 63 ans, Rémy Plantade, qui était accusé d'avoir, dans des circonstances atroces, commis un assassinat et une tentative d'assassinat sur deux de ses enfants. Plantade, après une année de veuvage, s'était remarié avec une femme beaucoup plus jeune que lui, Anne Bénézy, dans le seul but d'avoir un enfant pour obtenir la révocation d'une donation qu'il avait consentie. Bientôt, il devint père. La naissance d'un fils comblait donc tous ses vœux. Mais d'autres enfants vinrent au monde. Cela était pour lui inutile et embarrassant. Plantade était pourtant dans une situation aisée. Il possédait au Lubé, village de la commune de Varennes, des immeubles d'une certaine importance et il eût pu vivre facilement avec plusieurs enfants. Mais il était de ces gens qui ne se trouvent jamais assez riches et préfèrent vivre comme des malheureux plutôt que de toucher à leur fortune. Par intérêt, il s'était marié, regrettant d'avoir fait une donation en faveur d'un parent et de laisser ainsi sa fortune à des gens ne le touchant pas de près. Par intérêt, il devait commettre deux crimes horribles. Le 6 janvier 1864, la famille Plantade, ayant accouché d'un deuxième enfant, auquel on donna le prénom de Jean, l'accusé trahit sa mauvaise humeur en disant « Ça me fait beaucoup trop d'enfants, et si celui-ci venait à mourir, cela vaudrait mieux pour tout le monde. » Il ne voulut jamais regarder le nouveau-né. Un matin, Anne Bénézy étant sortie pour aller laver du linge, son fils aîné vint la prévenir au bout de quelques instants que son jeune frère, qu'elle avait laissé bien portant à la garde de son mari, pleurait et gémissait dans le berceau. Elle accourut et trouva l'enfant en proie à de violentes douleurs. Il avait la bouche pleine de sang et ne put prendre le sein par suite d'une blessure qui lui avait été faite au-dessous de la langue. La pauvre mère était navrée. Qui avait pu blesser ainsi son enfant ? Le lendemain, elle fut bien plus effrayée encore quand elle constata qu'on avait mis du tabac sur la blessure dans le but évident de l'envenimer. Les soupçons que la femme Plantade avait déjà conçus se changèrent alors en certitude et elle ne douta pas que son mari, qui avait l'habitude de priser, ne fût l'auteur de cet acte odieux. Une sage-femme qui vit l'enfant remarqua en outre qu'il avait été l'objet d'une forte pression sur l'estomac. La petite victime, ne pouvant s'allaiter, mourut le 4 février 1864, après 3 ou 4 jours d'affreuses souffrances. Anne Bénézy n'osa point dénoncer son mari, mais elle lui adressa à plusieurs reprises de violents reproches. Le fils aîné en conserva le souvenir, et dans une discussion avec un de ses camarades, il lui dit « Si tu continues, j'appellerai papa et il te coupera la langue, comme il l'a fait à mon jeune frère qui est mort. » Ce propos si grave, l'enfant le répéta au garde champêtre, qui vint l'interroger et qui en fit part au maire de la commune. Mais comme on ignorait à cette époque les constatations faites par la mère et la sage-femme sur le corps de la victime, on n'attacha point à ces paroles toute l'importance qu'elles avaient, lorsqu'un nouveau crime commis dans des circonstances analogues par l'accusé vint éveiller l'attention de la justice. Nous sommes en train de lire l'horrible crime de Varennes. Le 9 octobre 1868, Anne Bénézy donna le jour à un enfant qui reçut le prénom d'Antoine et dont la naissance causa à Plantade un vif mécontentement. L'accusé répétait sans cesse qu'il aurait bien de la peine à nourrir sa famille et souhaitait la mort du nouveau-né. Sa femme, gardant le plus douloureux souvenir de l'enfant qui avait succombé si tragiquement en 1864, exerça sur le bébé la plus minutieuse surveillance, ne le confiant jamais à son mari et l'emportant avec elle quand elle sortait. Cependant, ses précautions devaient être bientôt déjouées par l'accusé. Le 23 novembre, dans la soirée, Anne Bénézy, harassée de fatigue, se jeta tout habillée sur son lit pour prendre quelques instants de repos. Son enfant le plus jeune dormait dans le berceau, placé près du lit. Elle ne tarda pas à être réveillée par ses cris. Elle se leva aussitôt, alluma la lampe et présenta le sein à l'enfant qui ne put le saisir. La femme planta de s'aperçut alors que le pauvre petit avait la bouche pleine de sang et une blessure au-dessous de la langue. Elle se rendit aussitôt dans la chambre où son mari était couché et lui dit « Malheureux, que viens-tu de faire ?» L'accusé soutint qu'il n'avait fait aucun mal à l'enfant, mais elle lui reprocha amèrement sa conduite et le menaça même de le dénoncer à la justice s'il renouvelait sa criminelle tentative. À partir de ce moment, Anne Bénézy redoubla de surveillance et le 25 novembre au matin, l'enfant ayant pu s'allaiter de nouveau, elle ne désespéra pas de le sauver. Après l'avoir couché dans le berceau, elle se rendit à l'étable pour traire les vaches. Trompant sa vigilance, le mari entra dans la cuisine où il resta seul avec le bébé pendant quelques minutes. Ce fut suffisant. Quand la femme revint, elle trouva le bébé qui criait et pleurait. Une nouvelle blessure venait de lui être faite. Folle de douleur, elle dit à son mari « Misérable, tu veux donc encore l'assassiner, celui-là » L'accusé répondit d'un air tranquille « Ce n'est rien, c'est l'abcès de l'autre jour qui aura crevé. » Anne Bénézy se décida enfin à porter plainte au maire. Une instruction fut ouverte. Le médecin légiste constata sur la face inférieure de la langue deux blessures, dont l'une remontant à 2 ou 3 jours, était en voie de cicatrisation, et dont l'autre, la plus récente, avait été produite par un instrument tranchant. La veine racine gauche avait été coupée, et c'est par ces vaisseaux que s'était écoulé tout le sang que l'enfant avait perdu dans la matinée. Plantade fut arrêtée. On juge de l'émotion que produisit dans notre région, quand il fut connu, un crime aussi atroce. Le jour de l'audience, une foule immense se pressait autour du palais de justice, et quand l'accusé traversa la place qui sépare la prison du palais, il fut accueilli par des huées d'épouvante. La cour d'assises était présidée par M. le conseiller pèlerin de la Touche, M. Massin, procureur général, occupait le siège du ministère public, l'accusé était assisté de Maître Nouni. Rarement débats furent plus impressionnants. Plantade répondit d'abord par monosyllabes aux questions qui lui étaient posées. Il essaya de nier, mais des preuves accablantes s'élevaient contre lui. Les dépositions des témoins étaient écrasantes et bientôt, le misérable, perdant son assurance, entra dans la voie des aveux partiels. Monsieur le Président lui demanda « Vous ne vouliez qu'un seul enfant ?»« Oui. Vous avez hautement manifesté votre mécontentement que les deux autres soient nés. » « Je ne me le rappelle pas. Des témoins l'affirment. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent faire de fausses dépositions contre moi. Reconnaissez-vous être l'auteur des blessures faites à votre fils Antoine les 23 et 25 novembre ?»« Non. Cependant, votre femme vous accuse formellement. Ma femme ne sait pas ce qu'elle dit. Elle a longtemps hésité pour vous dénoncer. C'est l'horrible scène du 25 novembre qui l'a décidé. Vous feriez mieux d'avouer et de nous dire toute la vérité. Je ne suis pas coupable. » Messieurs les jurés tiendraient peut-être compte de vos aveux. L'accusé baissa la tête et garda le silence. Dans la salle, des murmures se firent entendre. Brusquement, Plantade s'écria. « Eh bien oui, c'est moi qui ai blessé le petit Antoine. Je ne voulais pas qu'il vive. C'était une bouche de plus à nourrir. » L'émotion était à son comble. Des huées s'élevèrent. Le président invita le public au calme. L'accusé, sans se laisser troubler par toutes les manifestations hostiles dont il était l'objet, reprit d'une voix forte. « Si j'ai coupé le fil de la langue au petit Antoine, c'était dans l'espoir que l'enfant, ne pouvant s'allaiter, mourrait d'inanition. »« De quel instrument vous êtes-vous servi pour accomplir le crime ?»« Je ne me suis servi que de mon doigt. »« Vos allégations sont absolument démenties par les constatations médicales. »« Je n'ai pas employé d'instrument, je l'affirme. » »« On a trouvé à votre domicile une paire de ciseaux fraîchement mouillés et aiguisés qui paraissaient avoir servi à la perpétration du crime. On y a relevé des taches de sang. »« Bah, ce sont de vieux ciseaux, il n'y a dessus que des taches de rouille. » »« Je dois indiquer à messieurs les jurés que l'enfant n'a pas heureusement succombé à ses blessures. Il n'en a point été de même pour votre fils Jean. Celui-là, vous l'avez tué. Il est mort je ne sais comment. Votre femme a déclaré que vous aviez assassiné votre autre enfant. » « Ma femme voudrait que l'on me guillotine pour se débarrasser de moi et pour se remarier bien vite avec un autre. » Il fut impossible d'obtenir de l'accusé des aveux relatifs au crime de 1864. Après une courte suspension d'audience, pendant laquelle, dans la salle des pas perdus, on commentait de diverses façons l'attitude de l'accusé, les témoins furent entendus. Une surprenante disposition émana de la femme plantade qui, tout en voulant atténuer la conduite de son mari, fut obligée, les larmes aux yeux, de reconnaître la matérialité des accusations portées contre lui. Monsieur Massin, procureur général, dans un énergique réquisitoire, fit un tableau saisissant des crimes reprochés à Plantade et demanda contre l'accusé un châtiment exemplaire. Des applaudissements saluèrent la péroraison de l'honorable magistrat. Monsieur le président menaça alors de faire évacuer la salle. La tâche de défenseur était difficile. Maître Nonny prononça une éloquente plaidoirie dans laquelle il supplia les jurés d'accorder à son client les circonstances atténuantes. Le jury se retira dans la chambre des délibérations pour en ressortir 40 minutes après avec un verdict affirmatif assorti de circonstances atténuantes. En conséquence, la cour condamna Rémy Plantade aux travaux forcés à perpétuité. Quelques mois plus tard, Plantade s'effondra dans sa cellule, victime d'un arrêt du cœur. Alors si vous voulez connaître d'autres affaires criminelles d'Auvergne, eh bien, je vous invite à le découvrir dans ce livre aux éditions de Boré.